Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Gabriel Oliver Aguillon.
Il est installé à ma droite, notre invité, l'altiste, orchestrateur, musicien, chef d'orchestre Mathieu Herzog. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez fondé en 2015 votre orchestre chambriste Appassionato et vous avez une très belle actualité en ce moment, deux concerts, ce soir au Festival des Bernardins à Paris, Salle Gaveau également à Paris le 23 novembre, le 10 décembre et puis à la scène musicale le 11 décembre. On va parler de tout ça tout au long de l'entretien. Et puis deux disques récents parus sur votre label Appassionato, le label, qui ceux-ci sont en partenariat avec Naïve. Métamorphose nocturne, où il y a la participation de la mezzo-soprano Adèle Charvet, et puis un disque Saint-Saëns, qui continue de célébrer le 100e anniversaire de la mort du compositeur, cette fois-ci avec une autre invitée, la violoniste Jinju Cho, et l'altiste Caroline Donin. Concernant la violoniste, qui est donc très en valeur évidemment sur ce disque, qui collabore avec vous, on la connaît assez peu, en tout cas moi personnellement je ne la connaissais pas. Comment s'est fait cette rencontre, et pourquoi elle? Mathieu Herzog.
C'est une rencontre un peu extraordinaire et hors du commun, comme souvent. Un jour, j'étais à Montréal en train de donner pour le coup des masterclass de quatuor au Canada. Et puis dans la rue, en rentrant à mon hôtel après une de ces classes en public, il y a une dame qui m'arrête dans la rue et qui crie mon nom. Et je me retourne et il se trouve que je vois voilà cette personne qui s'appelle Jinju, qui se présente et qui m'invite à un festival à Cleveland un an après. Pour jouer et voilà, c'était dans le moment où j'étais encore un peu plus altiste que maintenant, parce que j'avoue que l'alto malheureusement il dort un petit peu depuis quelques mois, mais le chef d'orchestre lui est de plus en plus actif.
On a vu ça.
Et en fait, nous avons joué ensemble et j'ai été soufflé par l'extraordinaire capacité musicale, d'expression, de niveau de violon, de tout ce que vous voulez. Et très honnêtement, j'avais très très rarement entendu un violon aussi sublime. Et immédiatement, je me suis dit, il va falloir qu'un jour on fasse quelque chose. Donc on a continué à jouer ensemble, on a fait plusieurs collaborations, on est parti en Corée ensemble, on a joué aussi aux États-Unis plusieurs tours, etc. Et à un moment, je me suis dit, il faudra que tu viennes en France. Et donc pendant l'année Covid, on a réussi à enregistrer, il y a quelques mois, ce disque Saint-Saëns.
Disque Saint-Saëns, où l'on trouve six de ses œuvres, Introduction et Rondo Capriccio, La Vanesse, deux concertos pour violon, donc avec Jinju Cho, Romance et Air, Mon cœur s'ouvre à ta voix, de Sanson et Dalila, arrangé par vous, donc pour violon, alto et orchestre. Est-ce que votre rapport à Saint-Saëns est-il fort? Vous dites bien dans le livret d'ailleurs, qui semble vous impressionner tellement il est resté fidèle à lui-même.
Oui, alors j'aime bien son côté finalement has-been, en fait, finalement. C'est-à-dire que pendant toute sa vie, il a vu passer le Sacre du Printemps, il a vu arriver des gens comme Prokofiev, Shostakovich, Bartok, et pourtant ça ne l'a pas empêché de continuer à écrire de la musique romantique française typique. Et c'est un compositeur qui je trouve est un peu mal aimé en France, il faut bien le dire, enfin qui en tout cas quand je faisais mes études et ceux qui parlent de lui-même qui étaient peut-être la génération avant moi me disent à quel point au conservatoire on le voyait un petit peu comme un vieux barbon grincheux. En fait, c'est un immense compositeur qui avait de l'humour, qui avait multiples talents, qui écrivait des poèmes, des pièces de théâtre, en plus d'être un compositeur émérite. Voilà, j'ai dirigé l'année dernière sa troisième symphonie, une symphonie monumentale avec orgue, par exemple. J'ai dirigé justement en Corée. C'est un compositeur extraordinaire et riche de possibles, et qui connaissait extrêmement bien le violon, surtout.
Oui, il n'en jouait pas.
Non, il n'en jouait pas, mais il a travaillé avec des gens comme Sarrazat et compagnie, donc il a appris admirablement, et il avait un talent incroyable, parce que c'est vrai que Jinju vous en parlerait encore mieux que moi, mais c'est digitalement très intelligent sa façon d'écrire pour le violon. Et extrêmement séduisant, plaisant, romantique, beau.
Oui, il y a quelque chose de sensuel aussi.
De sensuel complètement, la virtuosité est ébouriffante.
On va écouter l'introduction et Rondo Capriccioso, je vais rajouter cette petite syllabe, l'opus 28 de Saint-Saëns. Thank you. La sensualité, la virtuosité de Camille Saint-Saëns, ici dans la fin de l'introduction et Rondo Capriccioso, son opus 28 interprété par l'ensemble, l'orchestre chambriste Appassionato dirigé par Mathieu Herzog, notre invité ce matin, et au violon solo Jinju Cho, un disque Mathieu Herzog qui a été enregistré à la scène musicale où vous êtes artiste en résidence en ce moment, Mathieu Herzog.
Absolument, artiste associé sur encore 3 saisons. Actuellement, pour plusieurs projets divers et variés, concerts, tout ça, et puis un format vraiment tout public où j'essaie de développer un tout petit peu l'émotion et d'expliquer l'émotion musicale à un public non averti si possible, ouais, qui s'appelle Vous trouvez ça classique.
Voilà, des rendez-vous musicaux proposés au public, il y en a 5 au total dans la saison, à chaque fois c'est le samedi à 18h, Vous trouvez ça classique, c'est, vous voulez en terminer avec les clichés, rendre vraiment plus accessible tout ça,
c'est oui, alors je sais pas si c'est spécialement terminé avec les clichés, plus que d'expliquer pourquoi il y a des clichés d'une certaine façon, et je pense pas que la musique classique et la fréquentation des salles de concert soient forcément liées à un problème du fait qu'il faut rester silencieux par exemple dans une salle, ne pas applaudir entre les mouvements, ce genre de choses, mais je pense que par contre le fait que tout un public ne sache pas pourquoi peut-être l'handicaper un petit peu et lui donner un aspect snob et guindé de notre milieu qui ne l'est pas tant que ça, en fait. Il est tout à fait normal. Ce qu'on cherche, c'est donner une émotion. Et c'est vrai que pour vous donner un exemple très simple, le premier épisode, on l'a fait le 11 septembre dernier. Mmh. Et il y avait à peu près 700 personnes dans la salle. Je crois qu'il y en avait aux alentours de 400 qui ont déclaré venir pour la première fois à un concert classique. Donc c'était un chiffre extraordinaire.
Et quand j'ai juste réussi pour vous aussi.
J'en suis très très heureux. J'espère que ça va continuer. Et lorsque j'ai posé la question, lorsque j'ai expliqué l'histoire des applaudissements, par exemple, pourquoi on n'applaudit pas entre les moments, j'ai vu des visages se détendre dans le public parce que vraiment c'est quelque chose qui les stressait.
Ouais, mais on le sent d'ailleurs dans les salles de concert aussi. Hein, quand il y en a qui applaudissent, il y en a qui disent chut, d'autres au contraire qui disent bah oui, ça arrive à tout le monde. On ne peut pas tout savoir.
Ça a toujours existé. C'est pour ça qu'à une époque, il y avait des gens qu'on payait pour claquer, les claqueurs au 19e siècle. C'était ça. C'était pour régler ce problème.
La scène musicale, donc, pour ce rendez-vous, vous trouvez ça classique. Le prochain, c'est le 11 décembre et ce sera autour de Beethoven.
Alors non, pardon, il a changé. C'est justement Camille Saint-Saëns, c'est pas de votre faute. C'est justement Camille Saint-Saëns avec Jinju Cho, justement.
D'accord. Alors, Mathieu Herzog, vous avez sorti un autre disque, tout récemment également, enregistré aussi à la scène musicale, Métamorphose Nocturne. Comme vous l'avez dit en septembre, justement, une soirée pas très gaie mais très belle. On sent que ces Métamorphoses Nocturnes, c'est un programme qui est assez sombre. Strauss, ces Métamorphoses, Il Tramonto de Respighi et La Nuit Transfigurée de Schoenberg, où il y a donc la présence d'Adèle Charvet dans l'œuvre de Respighi. Vous serez en concert justement avec elle ce soir au Collège des Bernardins à Paris. Comment vous l'avez pensé, ce programme des Métamorphoses Nocturnes ?
C'est un peu le projet d'une vie. C'est-à-dire que j'ai créé Appassionato lorsque j'ai arrêté ma carrière de quartettiste au sein du Quatuor Eben, dont j'ai été l'altiste pendant 15 ans. Et lorsque j'ai décidé de me dédier à la direction d'orchestre, j'ai créé Appassionato avec justement des chambristes. Alors des chambristes, c'est des musiciens de chambre professionnels, spécialisés. On a souvent tendance à imaginer... Je prends l'exemple, par exemple, de Claudio Abbado quand il a développé l'orchestre de Lucerne avec presque des très grandes stars du monde de l'orchestre et des solistes. C'était un peu son idée, c'est-à-dire que pour lui, le meilleur orchestre du monde, c'était ces gens-là. Pour moi, le meilleur orchestre du monde, c'est des chambristes qui se mettent ensemble et qui jouent de l'orchestre, c'est-à-dire un quatuor à 40, à 50, à 80, etc., etc. On a la chance en France d'avoir énormément de très jeunes quatuors extraordinaires. Je les ai réunis et j'en ai créé un orchestre au bout d'un moment qui s'appelle Appassionato. Et donc depuis le début, je me dis un de ces jours, on ira vers des œuvres particulièrement exigeantes. Et si vous parlez du répertoire de cordes, il n'y a pas grand-chose de plus imposant, important, compliqué, sublime que ces 3 œuvres. Donc j'ai voulu les réunir et j'ai voulu en faire un live aussi. C'est une chose auquel je tenais beaucoup. Donc c'est un disque qui a été enregistré en live.
On retrouve d'ailleurs sur ces disques, Gabriel Le Magadur, second violon du Quatuor Eben. Quatuor Eben que vous avez quitté il y a maintenant 7 ans. Comment ça vous est venu, l'idée de vous mettre à la direction? Ça a toujours été en vous? Est-ce qu'il a fallu à un moment arrêter l'un pour commencer l'autre?
Il a fallu arrêter l'un pour commencer l'autre. C'est la conclusion que j'ai tirée. C'est ce qui a fait mon départ. Si j'avais pu, honnêtement, continuer de faire le Quatuor Eben au niveau où on était, avec l'intensité dans laquelle on était et diriger en même temps, je l'aurais fait. Mais c'était vraiment impossible. Il fallait choisir l'un et voilà. Et puis après, je pense que Vous savez, on pose beaucoup de questions sur les chefs d'orchestre. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que, enfin, il y a encore aujourd'hui, c'est une énigme. Et pour certains d'entre nous, même quand on dirige, c'est parfois ça l'est. Mais il y a quelque chose dans le musicien chef d'orchestre, c'est qu'il est là pour générer l'énergie finalement et la fédérer, l'énergie musicale justement qui sort de chacun des musiciens. Et je pense que j'aimais beaucoup fédérer, tout simplement. Cette idée de prendre les gens, tous, de les mettre ensemble, de les agglomérer, d'en créer un nouveau produit, on va dire, même si le mot produit est laid, quand on parle de choses aussi belles que la musique, c'était quelque chose qui m'attirait énormément.
La voix d'Adèle Charvet que nous allons écouter avec vous, donc, dans cet orchestre chambriste Appassionato que vous dirigez, donc, ce Il Tramonto, le coucher de soleil de Respighi, une œuvre des années 1900, autour de 1915. Qu'est-ce qu'elle raconte, là, Adèle Charvet? On va écouter Più Lento e Calmo, ce passage-là de Il Tramonto de Respighi.
Oui, c'est la description du moment où cette femme qui a perdu son jeune amant durant une nuit où ils attendaient ensemble le lever de soleil, on explique que lorsqu'on regardait cette femme après la mort de ce jeune amant, on ne voyait pas de peine, on ne voyait pas de tristesse, mais son regard était vide et qu'avec les années, avec le temps qui fuyait, elle a fini par reprendre ses couleurs.
Extrait de l'œuvre d'Ottorino Respighi, Il Tramonto, le coucher de soleil, et cette partie Più Lento e Calmo, la voix de la mezzo-soprano Adèle Charvet. avec l'ensemble Appassionato, dirigé par Mathieu Herzog, notre invité ce matin. Vous avez vous-même transcrit la partition de Respighi pour en donner une version pour orchestre à cordes et voix. L'œuvre est écrite pour quelle formation à l'origine ?
Quatuor et voix. Normalement, quatuor à cordes. Donc deux violons, un alto, un violoncelle et voix.
Donc là, c'est un peu ce que vous disiez, un quatuor grossi.
Un quatuor amplifié, ouais, ouais, d'une certaine façon. Sauf qu'il n'y a pas d'amplification, c'est uniquement le rajout des instruments et puis l'agencement des voix qui est un peu différent.
Votre premier disque avec Appassionato était consacré à Mozart, c'était en 2018. Là, on est dans une toute autre lumière, hein, une lumière nocturne. On est à la limite de la musique tonale, donc 1915. Mmh. Un grand pied dans le romantisme, une influence de Wagner qui est pas très loin. On est au bord aussi de la musique dite moderne. Comment on décrit cette musique de Respighi? Comment il a réussi à situer? Vous parliez de Saint-Saëns un peu aussi comme ça tout à l'heure, de rester fidèle, las.
Pour le coup, que ce soit Respighi, enfin, celui qui a montré la voix, c'est Schoenberg, réellement. Hein, c'est
que l'on trouve d'ailleurs dans votre disque.
Voilà, absolument, avec La Nuit Transfigurée. Arnold Schoenberg a donc poussé, on le sait, les limites de la tonalité jusqu'à passer dans la tonalité à l'apostrophe. Mmh. Le moment où il n'y a a priori une sorte d'abolition de la tonalité, parce que tout simplement il était en train de chercher quelque chose. Mais juste avant de faire ça, il a écrit une œuvre extraordinaire qui s'appelle La Nuit Transfigurée. Donc en fait, quand vous poussez la musique romantique à son extrême, vous êtes au bord de cette chose-là, comme vous le dites, un peu entre deux, qu'on a encore du mal un peu à classer, à comprendre. Et le travail sur ce disque, c'était justement de la rendre le plus claire possible et de se rendre compte que parfois, on a une petite tendance, alors c'est très personnel, je ne critique personne, mais on a une petite tendance parfois à jouer la musique romantique comme des gens qui ont vécu le XXe siècle, sauf que il faut bien se remettre dans le contexte. Les Métamorphoses de Strauss, par exemple, qui ouvrent ce disque, elles ont été écrites en 45, sauf que c'est un homme du XIXe siècle qui les écrit, pas un homme du XXe siècle. Donc en fait, la façon d'interpréter, la façon de jouer, la façon d'aller chercher le son dans les cordes est totalement différente et il faut en tenir compte.
Vous donnerez à peu près le programme de ce disque, donc Métamorphose Nocturne, ce soir au Collège des Bernardins à 20h à Paris, dans le cadre de la première édition du Festival des Bernardins, un concert intitulé La Nature et ses Métamorphoses. À la place de Schoenberg, justement, on en parlait de sa Nuit Transfigurée, il y aura la Pastorale, la sixième de Beethoven, un véritable portrait musical de la nature. Le festival, d'ailleurs, est consacré à la notion du temps, la pensée écologique dans les arts. Mathieu Herzog, la force de l'art, de la musique, peut donc nous aider, nous, l'homme, à comprendre notre folie, justement, notre rapport un peu étrange avec la nature.
Oui, je crois. Enfin, il me semble en tout cas qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait. D'ailleurs, hier, je participais à une conférence au Bernardin et on en parlait avec un historien du climat et avec qui on discutait et qui me disait que pour lui, par exemple, le fait qu'on soit un des seuls métiers qui recycle ses instruments, puisqu'on joue sur des instruments qui ont 400 ans parfois, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, parce que pour le coup, il y a peu de gâchis. Et en plus, ils sont en bois, donc finalement, c'est quand même pas mal. Mais pour être plus précis, il est vrai que lorsque vous, par exemple, vous écoutez la Pastorale de Beethoven, excusez-moi, je dis toujours Beethoven, c'est nous les musiciens Beethoven, la Pastorale nous donne une image d'un homme amoureux de nature. Beethoven, d'ailleurs, disait un peu sarcastiquement, je préfère un arbre à un homme. Et d'une certaine façon, ça nous rappelle à l'importance de ces choses, voilà, qui vont au-delà de l'humain.
Après Beethoven, Verdi. Thank you. à 8h53 sur France Musique. Le fameux Chœur des prisonniers de Nabucco de Giuseppe Verdi, arrangé pour violoncelle et orchestre, l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles avec la violoncelliste Camille Thomas et à la direction Mathieu Herzog, notre invité donc ce matin à la direction et puis aussi à l'arrangement de cette œuvre, de ce chœur Va Pensiero. Une collaboration, vous en faites beaucoup, hein, des arrangements. Il y a eu aussi le disque de Thomas & Co avec aussi votre ensemble Appassionato paru en 2019. Vous faites régulièrement donc des orchestrations, des arrangements, on peut le dire comme ça aussi, pour d'autres musiciens régulièrement.
Oui, c'est quelque chose que je pense maîtriser, enfin que je sais faire, que j'aime faire. Et j'en fais surtout énormément pour Appassionato.
C'est-à-dire que on l'a vu avec le Respighi juste avant.
Oui, voilà. Et puis même par exemple, là, nous allons nous retrouver le 23 novembre avec Ludovic Tézier à la salle Gaveau. Ce sera uniquement des orchestrations que j'ai faites, que je suis encore en train de faire. Je vous avoue que quelques heures avant de venir vous voir, j'étais en train d'en faire un petit peu.
Quelques heures avant, donc
oui,
cette nuit,
vers 5 heures du matin. Okay.
Ouais. Mathieu Herzog, pourquoi avoir créé votre propre label, donc Appassionato, le label pour plus d'indépendance?
Oui, alors on peut le dire parfaitement franchement. Je pense qu'aujourd'hui, et sans critique aucune, beaucoup de labels sont soumis à des pressions très importantes. Moi, je voulais une liberté artistique totale, qui puisse me permettre de faire absolument ce que je veux. J'ai trouvé en Naïve un partenaire non seulement à l'écoute, mais en plus compréhensif de ce que je voudrais. Parce
qui est
que,
partenaire donc de vos deux nouveaux disques.
Qui est le partenaire du 10-500 et des Métamorphoses Nocturnes, absolument. Et qui comprennent nos problématiques et donc et moi je comprends les leurs aussi, c'est-à-dire que tout le monde en a et on a trouvé cet arrangement possible. Donc aujourd'hui on a un label qui va aussi produire des disques d'autres artistes très rapidement et où si vous voulez d'une certaine façon il n'y aura plus de questions d'en vendre ou de pas en vendre, mais juste de laisser un témoignage musical de quelque chose d'important.
Oui, mais il faut gagner des sous aussi, Mathieu Herzog.
Il faut trouver des solutions.
Vous en trouvez donc.
Je cherche des solutions.
Bon, en tout cas, on vous souhaite plein de succès pour vos concerts ce soir, donc au Festival des Bernardins à Paris, toujours à Paris, salle Gaveau. Vous en parliez le 23 novembre avec Ludovic Tézier et Cassandre Berton, et puis le 10 décembre, toujours salle Gaveau, mais cette fois-ci avec Roberto Alagna. Et puis enfin, le 11 décembre, pour un concert à la scène musicale, vous trouvez ça classique autour de Camille Saint-Saëns, donc pour ce programme avec Jinju Cho qu'on entendait en début d'émission. La violoniste donc sera là sur scène. On se quitte justement avec un nouvel extrait de ce disque Saint-Saëns, le concerto pour violon numéro 3, avec vous, Mathieu Herzog, à la direction de votre ensemble Appassionato. Merci beaucoup d'avoir été
Merci
avec nous.
Merci à vous, c'est un très bon moment. Thank you.
les toutes dernières mesures du concerto numéro 3 pour violon, l'opus 61 de Camille Saint-Saëns, interprété par Jinju Cho au violon avec Appassionato, l'ensemble dirigé et de Mathieu Herzog.